Vous écoutez, on lit pour vous.
Plus de 20% des demandeurs d'asile au Québec peuvent déjà devenir permanents. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir. Le premier ministre François Legault a exigé le lundi 10 juin 2024 une baisse de la moitié du nombre de demandeurs d'asile présents sur le territoire. Plus de 20% du total évoqué sont des demandeurs déjà approuvés par Ottawa, mais en attente de leur résidence permanente à cause du seuil fixé par Québec. Pour qu'un demandeur d'asile passe de la colonne « temporaire » à celle de « permanent » dans les tableaux utilisés par les gouvernements, il y a deux grandes étapes. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, CISR, un tribunal administratif fédéral doit accueillir ou rejeter une demande d'asile. Dès qu'un demandeur d'asile est accepté par ce tribunal administratif fédéral, il devient alors une personne protégée. La personne protégée peut ensuite demander la résidence permanente. C'est là où la cible de Québec, établie à 3550 réfugiés reconnus sur place par année, entre en jeu. Plus de 38 000 individus résidant au Québec ont déjà été reconnus comme personnes protégées par Ottawa et attendent leur tour pour faire partie de ce quota. C'est du moins le chiffre confirmé au Devoir par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, en mars dernier. Au rythme actuel, il faudrait donc plus de 10 ans pour que tous obtiennent pleinement leur résidence permanente dans la province. Or, Statistique Canada range les demandeurs d'asile, sans décision, avec les personnes protégées, demande acceptée, dans son total de 176 000 demandeurs d'asile au Québec. Le chiffre utilisé par M. Legault en conférence de presse. Les personnes en attente représentent ainsi plus de 20% du total. Une manière de réduire les temporaires. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral et on veut 50% de réduction d'ici un an, a insisté le premier ministre du Québec. Le cabinet de la ministre provinciale de l'immigration, Christine Fréchette, a confirmé au Devoir que le nombre de ces personnes protégées ne bougera pas pour 2024 et 2025. Le Québec est le seul à pouvoir fixer ces seuils et le fédéral doit accepter nos choix, a fait savoir le cabinet dans une déclaration écrite. Pas question donc de diminuer de 20% d'un seul coup le nombre de personnes comptabilisées comme demandeurs d'asile, prises dans cette antichambre avant la résidence permanente. C'est sûr qu'en gardant des seuils assez stables de résidents permanents, ça crée un goulot d'étranglement, observe Catherine Xardès, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle illustre cette mécanique entre Québec et Ottawa. C'est comme un robinet. Une fois que le nombre fixé par Québec est atteint, Ottawa ferme le robinet. Pour les autres, il faut attendre le prochain quota. La chercheuse note que ces personnes peuvent avoir quitté la province pendant qu'ils étaient dans ce « no man's land » et que ces déménagements ne se reflètent pas toujours rapidement ou fidèlement dans les statistiques. Un phénomène semblable d'accumulation des dossiers déjà approuvés par le fédéral s'opère d'ailleurs dans deux autres catégories, le parrainage familial et les personnes admises pour motifs humanitaires. Il y aurait aussi 30 000 Ukrainiens arrivés au Québec grâce au programme spécial mis sur pied en 2022 dans la foulée de l'invasion russe. La plupart d'entre eux sont encore comptabilisés comme des temporaires. Quelle voie de résidence permanente sera ouverte pour ces personnes? Donne-t-elle comme exemple. Le nombre officiel de résidents permanents acceptés par la province est autour de 50 000 par an, rappelle-t-elle. Tant qu'elles ne peuvent pas devenir permanentes, toutes ces personnes, y compris les demandeurs d'asile acceptés, continueront de grossir les données des temporaires, conclut-elle. C'est par ailleurs l'un des messages envoyés par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, lors de sa rencontre avec ses homologues provinciaux, soit de diminuer le nombre de résidents non permanents en les faisant changer de statut. C'est la stratégie de M. Miller de dire que si on veut que la situation s'apaise, il faut les rendre permanents. Dans les autres provinces, c'est déjà comme ça, analyse la professeure. Même si les nouvelles arrivées de demandeurs d'asile diminuaient de moitié, comme le gouvernement Legault l'exige, cette liste ne va pas s'évaporer, remarque enfin Mme Xardèze. C'était plus de 20% des demandeurs d'asile au Québec peuvent déjà devenir permanents. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir.
Un pas de plus vers la réconciliation avec les Premières Nations, un texte de Gwendoline Lebeaumain paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Le 9 avril 2024, les 6 membres de la table de gouvernance de la Franco-Yukonie ont signé la déclaration sur la réconciliation avec les Premières Nations du Yukon. Ainsi, l'adoption de 8 principes directeurs guidera leurs actions dans le processus de réconciliation. La table de gouvernance de la Franco-Yukonie regroupe les directions et les présidences des institutions et organismes franco-yukonais tels que l'Association franco-yukonaise, AFY, l'Aurore boréale, la Commission scolaire francophone du Yukon, CSFY, les Essentiels, le Partenariat communauté en santé, PCS, et la Société d'histoire francophone du Yukon, SHFY. Angélique Bernard a été embauchée par l'AFY à titre de coordonnatrice de la stratégie francophone de rapprochement avec les Premières Nations du Yukon, pour rédiger la déclaration en collaboration avec les membres de la table. Citation : La déclaration est un engagement collectif de la francophonie de montrer qu'on est consciente et conscient des enjeux des Premières Nations et qu'on est là en tant qu'alliés pour les appuyer. Fin de citation, déclare-t-elle. Elle précise que les premiers projets de réconciliation avec les Premières Nations, entrepris par l'AFY, datent des années 1990. Citation : Après la célébration des 40 ans de l'AFY en 2022, le sujet de rapprochement avec les Premières Nations est revenu dans les discussions. En tant que communauté francophone, nous soutenons la réconciliation. Comment on peut travailler ensemble, soutenir et être alliés à la cause des Premières Nations au Yukon? Fin de citation. Quelle stratégie? Citation. La déclaration est un engagement que les groupes prennent et ensuite, chacun va voir s'il veut se doter d'une stratégie et comment la mettre en place. Fin de citation, précise Angélique Bernard. Par exemple, la SHFY, citation, souhaite amener les gens, notamment les jeunes générations, à parler de l'impact qu'a eu l'arrivée des gens d'origine européenne sur les Premières Nations. On veut aussi sensibiliser le public aux défis vécus par les Premières Nations à travers les expositions, les documents qu'on produit. Fin de citation, déclare Ian Harry, président de la SHFY. Citation, nous voulons mettre en valeur l'histoire commune entre les francophones et les Premières Nations, comme l'échange de connaissances et de façons de faire, et aussi les moments les plus douloureux, comme la période des écoles résidentielles avec les ramifications qu'on connaît aujourd'hui. Fin de citation, ajoute-t-il. Jean-Sébastien Blais, président de la CSFY, assure de son côté que, citation, « cette déclaration va teinter nos actions auprès de nos élèves et auprès de nos leaders politiques du Yukon ». Fin de citation. Le président ajoute que le nouveau plan stratégique de la CSFY, qui va être publié ce printemps, va dévoiler, citation, une série de gestes qui vont soutenir l'esprit de la réconciliation contenu dans la déclaration. Fin de citation. Citation, des actions vont renforcer l'idée qu'on est un acteur voulant agir pour une plus grande réconciliation au Yukon. On souhaite que ça influence un leadership positif au sein de la francophonie. Fin de citation, ajoute-t-il. L'organisme Les Essentiels, citation, aimerait développer des programmations, des activités conjointes avec les organismes de femmes autochtones. Fin de citation, rapporte Laurence Rivard, directrice. Un chemin long. Citation, la réconciliation est un processus continu. On n'arrivera jamais avec la stratégie complète, parfaite du premier coup. Fin de citation, estime Laurence Rivard. Citation. C'est sûr qu'on voudrait être rendu plus loin, mais beaucoup de gens ne veulent pas être maladroits et veulent faire ça correctement. C'est normal aussi de prendre son temps et d'être dans cet inconfort. Ellipse. Je pense qu'il faut passer par là et cet inconfort. C'est sûr que l'idéal serait quelque chose qui serait déjà fait, et on serait dans le plus concret, mais la communauté francophone, c'est plein de nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes qui n'ont pas nécessairement cette sensibilité sur les relations avec les Premières Nations. Fin de citation. Citation. Je pense qu'à la fois, il faut essayer d'aller le plus loin possible, mais il faut aller aussi à la vitesse des gens, le public qu'on dessert. En ayant constamment de nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, il faut mettre un effort encore plus fort sur comment sensibiliser ces gens à cette réalité. Fin de citation. Pour Angélique Bernard, citation, on ne veut pas s'immiscer et dire qu'on a toutes les réponses à vos problèmes. On va voir en discutant avec les Premières Nations ce qu'on peut faire. Parce que la ligne est mince. Il y a déjà des liens qui se sont créés entre francophonie et Premières Nations, mais là, c'est vraiment pour officialiser le tout. C'est nouveau pour tout le monde, mais on avance tranquillement. Tout ça a été réfléchi de façon à comment on peut aider sans s'immiscer dans les enjeux. Fin de citation. Jean-Sébastien Blais admet que, citation, « la déclaration est le fruit d'une longue réflexion de la communauté francophone à la table des leaders de la francophonie du Yukon afin de poser un geste concret et le geste concret est la déclaration. » Fin de citation. Pour lui, citation, l'éducation est souvent la base de la réconciliation. Si on connaît les gens, leurs histoires, leurs expériences traumatisantes, on ne peut pas tourner le dos à la réconciliation. On doit agir, avoir un meilleur vivre ensemble entre nous. Fin de citation. C'était « Un pas de plus vers la réconciliation avec les Premières Nations », un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Le deuil parasocial, ce deuil lié au décès des célébrités. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 1er mai 2024 dans le magazine Québec Science. Vous avez versé une larme, voire plusieurs, en apprenant le décès du chanteur Carl Tremblay, même si vous ne l'aviez jamais rencontré. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle le deuil parasocial. Patrice Labelle a vécu un choc quand il a appris le décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, le 15 novembre 2023. J'ai enlevé mes lunettes, j'ai porté mes mains à mon visage et j'ai pleuré comme si je venais d'apprendre qu'un de mes amis était décédé, confie-t-il. Le père de famille était un inconditionnel du groupe depuis 2002, année où leur succès a explosé avec la parution de l'album « Break syndical ». En apprenant la triste nouvelle, Cindy Laporte a eu une réaction similaire. « J'ai pleuré comme la fois où on m'a annoncé le décès de ma grand-mère », se souvient-elle. « Jamais je n'aurais pensé qu'il était possible d'être aussi triste pour une personnalité qui ne me connaissait pas. » Sans le savoir, cette grande fan du groupe a résumé ce qu'est le deuil parasocial. Si nous sommes nombreux à avoir été bouleversés par la mort de Carl Tremblay des suites d'un cancer de la prostate à l'âge de 47 ans, c'est parce que nous avions développé un fort attachement envers lui et son œuvre, au point d'avoir l'impression de le connaître personnellement. Ce phénomène, étudié depuis des décennies en psychologie, notamment aux États-Unis, gagne à être davantage reconnu. D'autant qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il a pris une ampleur inégalée. Qu'est-ce qu'une relation parasociale au juste? Il s'agit de l'illusion de proximité qu'on ressent à l'endroit d'une personnalité médiatique, par exemple un artiste, une athlète ou un politicien. Ces relations sont à sens unique, puisque la célébrité ne nous connaît pas. Le concept a été défini pour la première fois en 1956 par les chercheurs Donald Horton et
R. Richard Hall, de l'Université de Chicago, qui ont analysé les talk-shows de fin de soirée de l'époque. La télévision, en étant alors à ses balbutiements, il était révolutionnaire que des personnalités connues apparaissent dans l'intimité de notre salon par l'entremise du petit écran. Si on développe ces relations, c'est notamment parce que notre cerveau est conçu pour reconnaître des visages familiers et s'y identifier, et ce, dès la naissance. Nous vivons dans une société saturée d'images, et notre cerveau ne fait pas la distinction entre la personne assise dans la même pièce que nous et celle qui s'affiche sur un écran de télévision. Il traite les visages et les voix comme étant réels, sans égard à leur origine, explique la professeure de psychologie de l'université Empire State Gail Stever, qui se consacre à l'étude des relations parasociales depuis plus de 35 ans. Comme perdre une connaissance. Ainsi, lorsqu'une célébrité décède, ses fans vivent un deuil comparable à celui qu'ils et elles pourraient éprouver pour une personne de leur entourage. En fait, plus on est investi dans une relation, plus le chagrin sera grand, peu importe la nature de cette relation. C'est ce que soutiennent Alice Baker et Elizabeth Cohen dans une étude publiée en novembre 2023. Pour arriver à cette conclusion, les chercheuses de l'Université de la Virginie-Occidentale ont analysé les réactions anticipées de 271 personnes à la mort hypothétique de célébrités et à celles de personnes faisant partie de leur cercle social. Les relations familiales et amoureuses ont été écartées du processus afin d'établir une base de comparaison plus juste. Les chercheurs australiens Darren Wong et Lefteris Patlamozoglou ont obtenu un résultat semblable après avoir analysé le comportement de 9 personnes endeuillées à la suite du décès de vedettes de la musique, dont Michael Jackson et George Michael. Tout comme Patrice Labelle et Cindy Laporte, les individus interviewés ont comparé la mort de ces artistes à la perte d'un être cher. L'étude, publiée en 2020 dans la revue Death Studies, mentionne même que certains fans ont trouvé plus difficile de faire le deuil de leur idole que celui d'un ami proche ou d'un membre de leur famille. D'autres recherches universitaires se sont penchées dans les dernières années sur les réactions du public sur les réseaux sociaux à la suite des décès de personnalités connues, notamment Stephen Hawking, Kobe Bryant et la reine Elizabeth II. Dans tous les cas, leurs admirateurs et admiratrices ont été nombreux à exprimer les émotions typiques du deuil, comme le choc et la tristesse. Le deuil parasocial s'exprime principalement en ligne, mais il se vit aussi en personne. Peu après l'annonce du décès de Carl Tremblay, divers rassemblements spontanés ont été organisés au Québec. Le 28 novembre 2023, un hommage national a réuni plus de 15 000 adeptes du groupe au Centre Bell. Patrice Labelle a réussi à se procurer des billets pour cet événement très convoité. « Ça m'a fait du bien d'être entouré de gens qui ressentaient la même chose que moi, dit-il. Ça m'a aidé à faire mon deuil. » Cette réaction est tout à fait saine, affirme la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. Les gens ne se regroupent pas pour rien. Ça a une fonction protectrice. Il y a un exutoire dans le fait d'être ensemble et de se réconforter. Vous écoutez Le deuil parasocial, ce deuil lié au décès des célébrités, un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 1er mai 2024 dans le magazine Québec Science. Sa voix faisait partie de ma vie. Certains décès bouleversent plus que d'autres. C'est le cas de Carl Tremblay, qui était la voix du groupe québécois le plus populaire des 25 dernières années. Ses chansons ont accompagné le grand public dans les moments charnières de son existence. Sa voix faisait partie de ma vie. Quand ça allait bien et quand ça allait mal, il y avait toujours une chanson des Cowboys dans ma trame sonore, se souvient Patrice Labelle. Les personnalités publiques qui font partie de notre quotidien durant une aussi longue période, en viennent à jouer un rôle dans nos vies. En 1992, le psychologue américain Arthur Aaron a permis de mesurer cette dimension affective en développant un système nommé « échelle de l'inclusion de l'autre dans le soi ». Plus une personne occupe une place importante dans notre vie, plus elle fait partie de notre identité, explique la doctorante en communication Alice Baker. Quand elle sort de notre vie, on perd alors une partie de nous-mêmes. En raison de la nature très personnelle de leur art, le public a tendance à s'attacher encore plus aux interprètes musicaux. C'est ce qu'observe Gail Stever, qui a étudié et enseigné la musique avant de se tourner vers la psychologie. Au fil de ma carrière, j'ai étudié différents types de célébrités, des chanteurs, des danseurs, des acteurs. La musique est un langage à part entière, soutient l'autrice de l'essai « The Psychology of Celebrity » publié en 2018. La portée sociale des Cowboys fringants par leurs chansons aux textes poignants et engagés a également contribué à ce que les fans s'identifient à la voix du groupe. Carl Tremblay était très près des gens. Il était perçu comme étant très sympathique, très charismatique, comme incarnant les valeurs du Québec, les valeurs familiales et certaines valeurs politiques, poursuit Christine Groux. Ce n'est pas juste la fin d'une personnalité. C'est aussi la fin d'une époque. En effet, une partie du deuil à faire à son sujet concerne également la suite de son œuvre, amputée avec son départ. C'est un deuil particulier quand il s'agit d'une célébrité qui a réalisé une contribution importante à la culture populaire, renchérit Gail Stever. Un deuil réel pour des personnages fictifs. Et qui dit culture populaire dit aussi personnages de fiction. Des personnages à qui on s'attache drôlement et pour qui on peut aussi ressentir un deuil. Moins de 3 semaines avant que s'éteigne Carl Tremblay, les fidèles de la série Friends ont été atterrés par le décès de l'acteur canado-américain Matthew Perry, qui a incarné pendant 10 saisons, réécouté en boucle par de nombreux adeptes partout dans le monde, le personnage mythique de Chandler Bing. Comme nous avons été témoins de l'évolution de Chandler et de ses relations au fil des ans, il était impossible de ne pas avoir l'impression de le connaître intimement, avance Alice Baker. Le vécu des personnages en vient à s'imprimer dans notre psyché, explique Gail Stever. Le même phénomène a été observé en janvier 2016 à la suite du décès de l'acteur britannique Alan Rickman, qui interprétait le professeur Severus Rogue dans la série de films Harry Potter. Une avalanche de témoignages de fans qui ont grandi avec cette saga incontournable de la culture populaire a alors déferlé sur les réseaux sociaux. Toutefois, plusieurs fans de la série, surnommés « Potterheads » en anglais, se sont fait rabrouer par des internautes qui ont tourné en ridicule l'expression de leur peine. Des chercheurs de l'Université du Colorado ont analysé ces réactions qu'ils qualifient de « police du deuil » dans une étude intitulée « Control Your Emotions, Potter ». An Analysis of Grief Policing on Facebook in Response to Celebrity Death, publié en 2017. Le titre de l'étude emprunte une réplique du professeur Rogue, mais leur recherche s'est aussi penchée sur les cas de David Bowie et de Prince, décédés à la même période. Un chagrin sous-estimé. Étant donné qu'il est méconnu et incompris, le deuil parasocial est fortement sous-estimé par ceux qui ne le ressentent pas. Parmi les reproches adressés aux admirateurs et admiratrices d'Alan Rickman, cités dans l'étude, figure ce type de phrase. « Vous ne l'aviez jamais rencontré, vous ne le connaissiez pas. Vous devriez plutôt être triste à propos de quelque chose qui compte. » C'est ce qui est qualifié en psychologie de « deuil privé de ses droits ». Plusieurs membres du groupe, interrogés par Darren Wong et Lefteris Patlamouzloglou, ont affirmé s'être sentis jugés par leur entourage après le décès de leur idole. Cela a eu pour conséquence de rendre leur deuil encore plus douloureux, puisqu'ils n'étaient pas légitimés. Certains se sont isolés pour le vivre en secret. D'autres ont carrément intériorisé les opinions négatives reçues en qualifiant leur propre réaction émotive d'exagérée. Cindy Laporte a elle-même été la première surprise par sa réaction au décès de Carl Tremblay. « Je n'ai jamais compris les gens qui se sentaient tristes pour des personnalités qui quittent notre monde », admet-elle. « Il est important de valider cette perte, même si on ne partage pas la même tristesse », soutient Alice Baker, qui cite le cas de la reine Élisabeth II, dont le décès a suscité des réactions polarisées en raison de son héritage controversé. Nous pouvons en débattre sur les médias sociaux, mais ça ne changera pas le fait qu'elle est morte et qu'elle laisse de nombreuses personnes dans le deuil, tranche-t-elle. En fin de compte, chacun choisit sa façon de vivre sa peine. C'est très personnel et ça ne regarde personne. Une relation de moins en moins à sens unique. L'étude des relations parasociales est amenée à faire couler de plus en plus d'encre avec la popularité croissante des réseaux sociaux, qui permettent aux personnalités connues et moins connues d'interagir avec leur public et, par conséquent, de redéfinir la nature de ces relations qui sont de moins en moins à sens unique. Que ce soit un athlète qui diffuse ses photos de vacances, une gameuse qui remercie en direct ses abonnés lors d'un stream, un acteur qui enregistre un message personnalisé pour un admirateur ou une chanteuse populaire qui appose un cœur sur la publication d'une de ses abonnés dans tous les cas. On assiste à une forme de réciprocité, ce qui renforce l'illusion de proximité et donc le sentiment d'attachement des fans. Ces échanges ont pris une ampleur inédite durant les périodes de confinement au plus fort de la pandémie de COVID-19. Ayant perdu toute leur tribune, plusieurs vedettes ont ouvert les portes de leur vie privée en diffusant des vidéos enregistrées dans l'intimité de leur foyer. Selon la professeure en psychologie, Gail Stever, cet événement a agi comme un véritable catalyseur. Nous n'avons pas encore pris la mesure des impacts de ce nouveau type d'échange qui a explosé avec la pandémie. C'était Le deuil parasocial, ce deuil lié au décès des célébrités, un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 1er mai 2024 dans le magazine Québec Science.